RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Sylvie Chanfraud,
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Autrette,
Malou Lebars et notre Guilhem Tienno, toujours aussi fidèle à la technique et aussi compétent. Merci. Nous lisons au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Marc, ce fameux passage où il est question d'un être humain possédé d'un esprit impur, ou on pourrait dire, si on reprenait ce que nous avons souligné, un être humain dans un bain, dans un environnement impur, dans un esprit impur. Et nous avons vu que son lieu d'habitation, c'était les tombeaux, et que cet humain-là ne pouvait pas être lié. Donc, il déchirait ses liens, il se libérait de ses liens, il déchirait toute entrave. Donc, on ne sait pas trop. Soit il ne peut pas vivre en société avec les autres, soit il est tellement pris par les liens qui sont les siens qu'il se débat pour essayer de s'en libérer, et donc il se trouve que Jésus vient en terre païenne, hein, donc à Gérasa, et dès que Jésus apparaît, s'il y a quelque chose qui demeure peut-être encore humain dans cet individu-là, il se porte immédiatement vers Jésus, et donc ça va être l'affrontement entre Jésus et l'esprit impur. Jésus va faire ce qu'il faut pour le faire sortir, l'esprit impur de l'humain. Et donc, nous en étions restés dans une précédente émission sur le fait que Jésus demandait à l'esprit impur de révéler son nom. Et le nom, c'était Légion, répondait l'esprit impur, car nous sommes nombreux. Donc, c'est intéressant d'avoir cette idée-là d'une multiplicité de formes que peut prendre cette possession de l'esprit impur, on peut dire, dans nos sociétés aussi. Hein. Donc, on avait souligné que Légion, ça évoquait l'occupation étrangère pour tous les peuples de la Méditerranée. Mais donc, ici, c'est bien cette confusion, et que ça va dans tous les sens qui est souligné. Alors, la demande de Légion, c'est la demande adressée à Jésus, c'est de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, je reprends au verset 11, donc, or il y avait là du côté de la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux, et il leur permit. Bon, la demande de Légion est exaucée par Jésus. Alors, est-ce que c'est la volonté de Jésus qui se passe, ou est-ce que c'est simplement qu'il tolère que ce soit comme ça?
Non, ça semble bien être la volonté de l'esprit démoniaque Légion, en fait. Hein.
Oui.
Il répond positivement, en fait.
Voilà, donc, mais le texte ne présente pas ça comme si c'était Jésus qui le voulait. C'est eux qui demandent. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important pour eux de ne pas sortir du pays?
On avait laissé entendre dans la précédente émission qu'ils sont bien dans cet environnement-là, en vérité.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait...
En définitive, ils font bon ménage d'être barricadés dans leur monde, et ils ne souhaitent pas d'intrusion.
Oui, voilà. Mais c'est peut-être aussi l'idée que les esprits impurs ils ne peuvent pas subsister s'ils ne sont pas dans des corps. Ça, c'est intéressant, peut-être aussi. Hein. Donc,
il y a une sorte de parasitisme, en quelque sorte.
Ouais, alors c'est des corps de cochon, d'accord, mais bon, c'est quand même des corps, quoi. Donc, et puis, à la limite, ils vont rester dans cette région, même s'ils vont être précipités dans la mer, ils vont rester quand même dans cette région de Gérasa. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire chez les cochons ce qu'ils ont fait chez l'humain. Ils vont essayer,
effectivement.
Ouais, parce qu'en fait, on verra, enfin, ça sera pour le verset suivant, mais bon, ils vont devenir incontrôlables, ces cochons-là. Hein, donc, voilà.
C'est peut-être pas anodin que ce soit des cochons, par contre.
Alors précisez un peu.
Bah, en fait, au vu des Juifs, le cochon était un animal impur. Donc, à la fois, il y a une certaine logique, une certaine cohérence dans leur démarche et dans leurs souhaits.
Voilà. Et donc, on nous dit aussi que ce troupeau-là, il se trouvait du côté de la montagne. Alors, est-ce que c'est...
Finalement, la montagne, c'est aussi une figure qui indique la présence divine.
Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a des cochons du côté de la montagne?
La montagne, c'est aussi le lieu de l'aridité, où il n'y a pas grand-chose qui pousse, c'est pas vraiment fertile.
Alors, c'est vrai que la montagne, ça peut être ambivalent. Oui. Hein, donc, et nous avons dit aussi au départ qu'il était dans les tombeaux et dans les montagnes. C'était quand même son lieu aussi déjà. Hein, donc, vous voyez, donc, et quelque chose de pas civilisé. En tout cas, c'est un lieu qui n'est pas habité par rapport à ce qui va être précisé dans la suite pour la ville. Hein, mais bon, voilà. Donc, je poursuis la lecture. Donc, je suis au verset 13, et Jésus leur permit, et ils sortirent, ils entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Quelle catastrophe économique.
Mais oui, comme vous l'aviez dit lors de la première émission, c'est économiquement pas rentable cette histoire. Mais bon, ce qui est enfin un peu surprenant, qui peut choquer, c'est que 2000 porcs pour l'époque, c'est quand même quelque chose d'un peu invraisemblable.
Ouais, donc ça nous aide quand même. Il n'y en avait pas des troupeaux de cette taille. Alors,
et puis en tout cas, ça nous aide à pas faire une lecture uniquement littérale.
Puis d'abord,
de ce
est-ce
texte.
Qu'il y avait des escarpements aussi
Pas vraiment, en fait.
Non, voilà. Donc tout ça nous aide à nous dire, y a une manière de raconter les choses que nous devons entendre là aussi. Hein. Voilà. Mais alors, cette histoire-là des porcs. Alors, mot à mot, c'est vrai qu'on pourrait traduire le troupeau s'élança en bas de la falaise, dans la mer, environ 2000, et il s'étouffait. Souvent, c'est traduit par il se noyait. Vous allez me dire le résultat est le même, mais peut-être pas tout à fait quand même du même ordre, parce que s'étouffer, c'est.
On a l'impression que c'est eux-mêmes qui manquent de souffle, qui s'étouffent eux-mêmes, en fait. Il y a une espèce de. Là aussi.
Oui, ils n'ont plus de souffle. Quand on n'a plus de souffle, on ne peut pas respirer, donc en fait, on ne peut pas vivre.
Mm-hmm. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut jouer sur les mots, parce que le mot esprit, on pourrait le traduire par souffle.
Par souffle, effectivement.
Et donc, les esprits impurs dans les cochons, ils vont pas pouvoir exercer leur souffle. C'est comme si il y avait un lieu, parce que la mer, c'est aussi le symbole quand même des forces du mal. Hein. C'est le symbole du chaos un peu originel. Donc ils sont comme paralysés là dans cet univers qui est un peu le leur. Donc voilà, ils sont comme annihilés, c'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir exercer leur influence néfaste et mortifère sur les humains. Mmh. On va dire ça comme ça.
Oui. Ils ne pourront plus parler. Ils n'ont plus de souffle. Ils pourront plus.
Voilà. Donc, un principe de désordre, de confusion dans la création qui reste là, dans un univers un peu...
Obscur.
Voilà, un peu obscur. Voilà. Alors, on continue le récit. Verset 14. « Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Et ils furent saisis de crainte. » Ah, voilà. Donc, on est dans un autre contexte ici. C'est le contexte de la ville. et des champs.
Tout à fait, on prend conscience qu'il y avait du monde finalement à Gérasa. Pour le moment, on n'avait pas trop perçu ce monde. On supputait qu'il y avait quelqu'un, mais et là, en l'occurrence, on fait connaissance de ceux-là, en fait, qui effectivement faisaient paître leur et qui annoncent à la ville et aux champs. Donc, en fait, il y a tout un réseau de communication sur ce qui vient de se passer.
Cette rencontre finalement va provoquer des réactions pour l'entourage. Ce n'est pas que finalement l'humain et Jésus qui sont concernés. Ça va entraîner des modifications,
des réactions. Hein, on va voir très très vives. Hein, donc voilà.
En fait, ça concerne tous les Géraséniens du coup ici aussi.
Oui.
C'est plus que l'humain habité de l'esprit impur.
Voilà. Donc, en fait, on se demande d'ailleurs, les gens vont voir ce qui t'est arrivé, ils viennent auprès de Jésus, ils voient le démoniaque, ils le voient, enfin, ils voient encore le démoniaque, on pourrait presque traduire le démonisé, hein. ils le voient, ils voient le démoniaque assis, vêtu dans son bon sens. Alors. Mais en même temps, il le voit encore comme démoniaque.
Oui, alors à la fois, mais à la fois, il est dans une posture qui est la posture du sage qui enseigne, vêtu.
Parce qu'il est assis.
Il est assis.
Voilà.
Oui. Il est vêtu d'un manteau, sans doute. Enfin, en tout cas, il est vêtu. Et puis.
Donc, ça veut dire qu'il est un humain normal. On va dire ça comme ça.
Quasiment. Ouais. Et dans son bon sens. Et dans son bon sens.
Mais comme il n'est pas dit qu'il voit celui qui avait été démoniaque, il voit celui qui est démoniaque assis. Donc vous voyez que c'est difficile peut-être pour eux de faire le pas quand même.
Oui.
Il y a une interrogation immense, hein, mais bon.
En fait, ils ne veulent pas l'admettre, je pense.
Ils ne veulent pas le reconnaître.
Ils ne veulent pas le reconnaître, non ?
C'est difficile, hein. Donc, celui qui est là, qu'ils ont vu comme un déchet d'humanité, parce qu'il devait être nu, si maintenant il est vêtu.
Oui, enfin, voilà, sans doute,
Il y a tout ça aussi, hein. Donc, il est peut-être dans leur imaginaire encore démonisé, mais il pose problème, quoi, parce qu'il est plus comme comme ce qu'ils avaient l'habitude de voir, hein. Donc et on nous dit du coup, ils furent saisis de crainte, hein. Voilà. Oui. Ça fait peur.
Ce qui vient de Dieu fait peur.
Alors, est-ce que c'est là, vous allez vite en besogne, peut-être Marie-Pierre, est-ce qu'ils imaginent que c'est d'abord ce qui vient de Dieu, mais en tout cas, c'est ce qui dépasse leur entendement.
Quoi, oui, parce que c'est sidérant et saisissant, parce qu'ils se sont enfuis aussi, donc c'est quelque chose qui est quand même sidérant.
On ne peut pas accueillir tout de suite, directement, une telle modification.
Oui, voilà, c'est comme introduire quelque chose, un intrus dans un groupe.
Oui.
Et il est comme un intrus, du coup, celui-là, là, et ça dérange en quelque sorte.
Oui, surtout que tout le monde vivait bien dans le désordre. Ça posait pas de problème.
Non, ça arrangeait tout le monde même.
Il était à distance.
Mais
mis à distance. Il posait, mais voilà. Donc
il
finalement.
Il posait aucun problème.
Voilà, donc
en fait, ils mesurent le risque. En fait, ils sont en train de mesurer les risques pour leur environnement, quoi.
Leur tranquillité habituelle.
Parce que là, c'est la première fois où la peur finalement est mentionnée dans le texte.
Oui. Alors, donc, si vous voulez bien, on va les laisser là dans leur crainte, là. Donc, voilà, hein, c'est tout à fait surprenant et puis inquiétant de voir quelque chose qui vient perturber leur train-train, leur univers habituel. Au fond, est-ce que, avant d'avoir cette petite pause, cette interruption, on ne peut pas se dire, au fond, pour nous, c'est pareil, ce qui vient interrompre un peu nos petites habitudes, notre petit train-train, là où on a bien organisé nos existences, ça fait un peu peur, non ?
Tout à fait. Tout à fait. Ça bouscule, en tout cas, et ça remet en question plein de, effectivement, fausses certitudes qui s'installent dans nos vies et qui nous tranquillisent. L'agenda, par exemple, au hasard, c'est quelque chose qu'on coche et qui nous rassure. Mais en fait,
généralement, on n'aime pas le changement. Non. Oui. D'une manière générale, ça, il faut s'habituer, il faut apprivoiser, voilà, quelqu'un. Ou...
Même si c'est sortir d'une situation pas très confortable, on préfère quand même avoir nos esprits impurs qui nous gouvernent. C'est ça que vous voulez dire ?
Je pense que c'est plus facile, en fait, quand on est habitué à quelque chose, c'est plus facile que de faire un pas de côté pour modifier nos habitudes ou accueillir quelque chose de nouveau qui risque peut-être de nous perturber ou il va falloir se réadapter.
Voilà. Donc, en fait, si on peut dire, ce personnage-là, assis, vêtu, dans son bon sens, qu'est-ce que ça veut dire dans son bon sens d'ailleurs, parce que on peut peut-être trouver une autre explication pour dans son bon sens, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dans une sorte de forme de sagesse.
Oui, c'est une forme de sagesse. En tout cas, sa posture est celle du sage.
Désormais, il y a quelque chose en lui qui fait autorité, qui est du côté de l'humanité profonde. Enfin, voilà, il y a tout ça. Hein. Donc, voilà. Et en fait, il est encore marginal, quoi, finalement, presque dans leur univers.
Oui. On pourrait peut-être dire qu'il est bien orienté. Précédemment, on avait dit qu'il était orienté plutôt vers la mort. Là, on peut peut-être dire qu'il est orienté plus vers le ciel que vers la mort.
Ou du moins vers la vie.
Vers la vie, on peut dire ça.
Voilà, tout à fait. Bon, on propose une petite interruption musicale. Si vous voulez bien, nous allons relire juste ce passage, la deuxième partie donc de ce texte, La libération du possédé de Gerasa, et nous allons reprendre la lecture à partir du verset 11.
Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux ». Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite, et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque, assis, vêtu, et dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme ils montaient dans les barques, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandait à être avec lui. Jésus ne leur permit pas, Mais il lui dit « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement.
Voilà, donc nous relisons ce passage, et puis nous avions souligné, avant la pause, que finalement les esprits impurs avaient supplié d'être envoyés dans les cochons, et que nous avions dit aussi que la précipitation dans la mer pour les cochons avec légion, donc avec possédé par légion, c'est-à-dire par les esprits impurs multiples, eh bien, s'étouffaient. Il n'y avait plus de possibilité de parole. Ils étaient comme annihilés dans leur désir de nuire et d'introduire de la confusion. Et donc, en fait, on avait souligné aussi que ceux qui avaient vu cela, les gens de la ville et des champs, ils étaient saisis de crainte. Il y avait quelque chose qui les sidérait, là, qui dépassait leur entendement. Et c'est pas sûr que pour eux, ce soit quelque chose qu'ils accueillaient comme une bonne nouvelle, puisque ça vient perturber tous leurs repères. Hein. Et nous en étions effectivement au verset 16, où on dit que ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et à propos des porcs, et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire.
Oui.
Bah, c'est Jésus qui devient dangereux, finalement.
Oui, du coup, oui.
Oui, parce qu'en fait, il n'accueille pas ce qui s'est passé.
Alors, est-ce qu'il n'accueille pas? Est-ce qu'ils ne peuvent pas accueillir? Voilà, est-ce que c'est le moment pour eux d'accueillir? Il y a toutes ces questions-là. Hein, donc, est-ce qu'ils sont en mesure, pour le moment, de reconnaître celui-là? Celui qui est à l'origine de la libération de celui qui avait été démoniaque? Est-ce que c'est le moment pour eux? Je peux faire le lien peut-être avec ce que nous avions dit pour introduire la première émission sur ce texte, où on avait dit que ce qu'il y avait précédemment, c'était le récit de la tempête apaisée, et où les disciples étaient aussi dans une situation de peur, de crainte, d'épouvante, et ils craignaient pour leur vie, et Jésus dormait, et c'est Jésus qui va calmer la mer et la tempête. Et puis, eux, ils sont dans la crainte, mais ils posent la question, mais qui est-il celui-là? Alors ici, il n'y a pas de réaction de ce type-là.
Non.
Ce n'est pas le moment encore pour eux de reconnaître qui il est, celui-là, hein, qui vient perturber leur univers.
Oui, si on fait le parallèle par rapport à l'humain, l'humain a fait la démarche d'aller vers Jésus. En fait, que eux, on va dire, ça leur tombe dessus, et finalement, ils sont pas prêts à accueillir ça.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la crainte, ça peut provoquer soit, comme pour le cas des disciples, la reconnaissance, quoi, le désir de reconnaître celui-là qui est à l'origine, cet autre-là qui vient et qui vient apporter la libération, ou bien au contraire, la crainte est tellement forte qu'on refuse de le reconnaître comme tel, hein, donc il y a une peur. Donc là,
oui, puis pour les disciples, il y a quand même eu tout un chemin avant, où ils ont accompagné Jésus, où ils reconnaissent qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Ici, c'est peut-être un peu tôt pour eux.
Oui, alors ils le reconnaissent comme fils de Dieu, et ben ils l'ont pas reconnu tout de suite non plus au creux de la tempête quand même, et donc même l'épreuve, mais ça oriente différemment. Alors ici ben, en fait on se dit ben carrément il vaut mieux qu'ils s'en aillent, hein, c'est ça, et qu'ils partent. Alors mais c'est pas fini le texte, et c'est ça qui est très intéressant. Donc le verset 18, comme ils montaient dans la barque, donc Jésus accède à leur demande, il s'éloigne. Hein. Donc celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Alors on pourrait se dire « Ah, ben c'est dommage, peut-être que Jésus n'est pas accueilli sa demande, qu'est-ce que vous en pensez ?»
on peut penser ça, oui, parce que finalement, il se serait bien senti avec Jésus. Mais à la fois, c'est assez formidable d'assister là au premier apôtre en quelque sorte, puisque il l'envoie en mission avant même que il envoie ses disciples. Enfin, il avait envoyé ses disciples à travers Israël, mais là, en l'occurrence, il envoie un missionnaire païen parmi le monde païen.
Bon. Mais il devient apôtre lui aussi.
Oui, voilà. Donc, vous avez remarqué aussi que on ne dit pas là, le narrateur ne nous dit pas le démonisé ou le démoniaque, mais celui qui avait été. Donc, oui. Désormais, oui. C'est du passé. Alors, c'est très beau cette expression là aussi. Et il demandait à être avec lui. C'est beau ça quand même, non? Il demande à être avec lui. Mm. Et Jésus va lui ouvrir une autre manière
d'être avec lui.
D'être avec lui, oui, finalement. Oui.
Que désormais, il est témoin.
Oui, et même à la limite, on pourrait dire, si on fait le lien avec l'épisode précédent des disciples, c'est comme celui qui est en train d'annoncer que les disciples, ils auront à avoir
avec
cette position-là, oui, qui est la sienne, oui, de celui-là, donc à aller aussi en terre païenne, sans que Jésus soit de façon visible
avec eux,
il sera quand même avec eux. Donc, oui, c'est très, très... Alors, il lui dit aussi, cette expression est belle, va dans ta maison auprès des tiens.
Oui, parce que lui qui était seul dans les tombeaux, actuellement, il a une maison avec des frères et sœurs.
Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Alors il n'est pas dit que du coup ce soit une maison en brique ou en terre cuite, c'est pas ça que ça veut dire, mais avoir une maison désormais, c'est...
C'est partie d'une famille.
Oui, c'est ça, c'est avoir une proximité, c'est avoir un environnement.
Et donc du coup c'est quand même c'est dans cette maison là auprès des siens, si vous avez l'expression, hein, donc dans une ça, on pourrait dire bien sûr il est réintroduit dans un univers sociable humain, mais c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est là qu'il doit rapporter, annoncer tout ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa miséricorde.
Oui.
C'est quand même le lieu de l'annonce, hein, donc voilà. Et ça, c'est beau aussi parce que il a à reconnaître d'où vient la libération pour lui. Il a à l'annoncer. Donc on pouvait un peu souligner qu'il s'est pas libéré tout seul.
Il s'est pas libéré tout seul et en plus le fait d'être, il aurait souhaité rester avec Jésus, ce qui était finalement peut-être confortable. Et au final, ben non, il doit lui aussi se déplacer et en gros prendre un risque aussi d'aller témoigner. C'est pas, ça sera pas forcément facile tout le temps.
Voilà. Et ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa miséricorde, on pourrait dire que lui, il va devoir dire que c'est l'autre avec un grand A, étranger en quelque sorte à sa terre. Étranger, c'est l'autre qui l'a libéré. C'est assez incroyable. Donc pour nous aussi, ça nous fait entendre, c'est l'autre qui vient, peut-être parfois comme étranger sur nos terres, qui vient nous libérer. Et que nous avons peut-être du mal un peu à accepter aussi. Et donc l'homme s'en alla, verset 20, l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans les tombeaux. Dans la décapole, c'est dans les 10 villes du bassin méditerranéen. Là. Donc ça veut dire que c'est un environnement même plus large que Gérasa, là, finalement.
Oui, parce qu'on parlait de sa maison et ici, il est question d'un espace bien plus vaste.
Voilà, mais c'est un espace qui est non-juif quand même. Hein. Donc ça veut dire que lui, il est comme le sera Paul plus tard, comme apôtre des païens, hein, donc voilà. Alors nous arrivons à la fin de ce récit. Alors est-ce que nous aussi nous sommes dans l'étonnement de ce que Dieu fait pour nous libérer dans les espaces où nous sommes? Nous sommes baignés dans un espace dominé par des esprits impurs, mais nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes, et c'est cette tension vers un autre, voilà, ce désir vers un autre qui vient à notre rescousse et qui peut nous libérer. C'est un autre qui s'en charge. Et la lecture de la Bible peut provoquer ça en nous aussi. Merci d'avoir été avec nous sur RCF.